Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre journal, le journal des auditeurs chaque jour, du lundi au vendredi. Vous avez la parole bien sûr sur Africa Radio. Nous débutons cette semaine avec un sujet pratique et éco, comment lancer son business en Afrique. Alors que l'entrepreneuriat attire de plus en plus de jeunes, quels sont les secteurs porteurs sur le continent? Que faut-il savoir pour maîtriser l'environnement des affaires? Nous en parlons à l'occasion d'une conférence qui aura lieu le 12 mars prochain à Paris, une conférence organisée par le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, ADIFE et APERAF. Et pour répondre à toutes vos questions et en parler, nous serons avec deux invités, Landry Djimpé, PDG du cabinet d'études Innogence, et Blériot Chico, fondateur et PDG justement d'APERAF. Pour participer, posez vos questions à nos invités, vous faire part de vos témoignages, notamment en tant qu'entrepreneur, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00, que vous soyez à Abidjan, Paris, Bamako ou encore Kigali. Le numéro pour participer, c'est donc le 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp ou alors sur notre page Facebook, facebook.com/journal. des auditeurs. Mais avant cela, comme de tradition, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour Africa Radio. Nous vous appelons pour vous souhaiter bonne fête de 8 mars, car en réalité, ça la femme, nous sommes absolument rien. Donc, par conséquent, nous vous encourageons et nous vous soutenons pour les initiatives prises un peu partout à travers le monde pour l'amélioration des conditions de vie des gens. Car nous sommes synonymes de complémentarité. Oui, nous sommes complémentaires.
Bonjour Stéphanie. Bonjour de l'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Moi, je reviens sur la décision de Hassan Ouattara que de ne pas obliger un troisième mandat. Moi, les propos de Emmanuel Macron, en fait, c'est l'éloge qu'il fait à Hassan Ouattara. Je ne sais pas quelle patte qu'ils ont fini les deux. Mais il a qualifié cette décision d'historique. C'est une décision historique. Moi, je ne sais pas de quoi elle est historique, cette décision. Parce que si on regarde bien, c'est quand il a dit Hassan Ouattara, devant son congrès, le Parlement, voilà, Moussoko, je ne sais pas, devant ses partisans et tout. C'est pas une première. En fait, il n'est pas le premier à renoncer à briguer un troisième mandat. De toute façon, la Conseil de la Côte d'Ivoire ne le permettait pas de briguer un troisième. Ne la permettait pas de briguer un troisième mandat, sauf modification, pour passer en force. Au Niger, Mamadou Issoufou avait annoncé déjà 2 ans avant la fin de son deuxième mandat là, qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Donc lui aussi, il avait le pouvoir, comme le font certains, l'ont fait certains, de ouvrir le faire des certains comme en Guinée, de modifier la constitution et de remettre les compteurs à zéro et de briguer un troisième mandat.
Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. Il y a certains détracteurs du président Ouattara qui pensent que ce dernier a subi la pression de la France, raison pour laquelle il n'a pas voulu se présenter à l'élection de 2020. Mais admettons que ça soit le cas, mais si Ouattara a accepté cette pression, c'est qu'il a l'amour de son peuple. Ouattara a montré qu'il est un grand homme et qu'il veut la paix dans son pays. Parce que ici, dans le passé, nous avons vu certains présidents qui non seulement n'ont pas gagné les élections, mais qui se sont accrochés au pouvoir. Ils ont suivi la pression de la France, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Alors que le président Ouattara, même si je reconnais qu'il n'a pas subi une telle pression, mais il a accepté de ne pas se présenter. Il pense à son peuple. Ouattara sort par la grande porte. C'est le Nelson Mandela de l'Afrique. Idriss, bonne journée.
Alors bonjour Stéphanie, bonjour amis du GDA. Je suis Pierre de la République démocratique du Congo. J'interviens souvent à la radio, notre radio. Donc aujourd'hui, je voulais quand même parler de l'affaire de François Compaoré. Donc la France a accepté de le renvoyer au Burkina pour qu'il soit jugé pour le meurtre de Robert Zongo, Norbert Zongo, le journaliste, et puis son chauffeur aussi. Donc, c'est une bonne chose que la justice soit passée, que la France accepte aussi de le renvoyer là-bas. Ça, c'est une bonne chose. Mais nous demandons une autre chose. Blaise Compaoré a fait un coup d'État. Donc, il a fait un coup d'État. Thomas Sankara qui a été tué. Donc, nous voulons quand même avoir la vérité sur cette affaire aussi. Donc, nous voulons quand même que là où il est, que Blaise Compaoré, que la justice burkinabé puisse faire aussi la demande de lui renvoyer aussi Blaise Compaoré pour qu'il puisse comparaître, pour qu'on puisse savoir la vérité sur la mort de Thomas Sankara.
Ouais, bonjour, Madame Tefana Toumane. Bonjour à tout le monde. Jara Lassana. Lassana Jara. Je vais parler un petit peu concernant du Mali, concernant Mamadou Doukou. Voilà, moi je félicite Mamadou Doukou parce que c'est un patriote quoi, excusez-moi. Voilà. Parce que, comment dire, Ibeka lui va faire dans son temps, jusqu'à 2023, le pays va être toujours mal.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo, LRCK. Nous avons un député qui est en prison, ça fait plus d'une année. Mais nous demandons sa libération. Il s'agit de Mike Mukebaye, c'est un député qui a parlé mal, qui est opposant. Mais Félix Tshisekedi nous avait promis un état de droit. Nous voulons l'application de cet état de droit. Nous voulons la justice équitable. Nous voulons une justice pour tous.
Amis du CDA, bonjour. Je suis du Congo-Brazzaville. Bon, et ces jours-ci, on ne parle plus du Congo-Brazzaville. Quand j'écoute l'actualité sportive africaine, ni dans les clubs champions, dans le temps, on parlait du Diable Noir, on parlait de patronage, As Bantu, surtout handball aussi, c'était des champions d'Afrique, handball, mais maintenant, il n'y a plus rien, plus rien. Tout se passe seulement en politique, c'est tout se sont comprenés sur la politique, nous parlons de politique pour aller bouffer de l'argent de politique. Plus rien ne va dans le social, dans le sportif, tout ça. Hein. Même là, vendredi 6 mars 2020, le gouvernement a envoyé des berdèmes, des tanks, des hélicoptères qui sont en train de bombarder le secteur de Mindouli, au Poule. La ville de Mindouli est bombardée, les gens sont enfouis dans les forêts. Quelle est cette haine qui est portée sur une petite population comme ça? Depuis 1997 jusqu'à maintenant, depuis que M. Sassou est revenu au pouvoir, toujours, ils apportent un petit truc, ils vont là-bas, ils vont dire qu'on va tuer le rebelle Ntoumi. Alors que le rebelle Ntoumi était sorti à Brazzaville, on lui avait confié des responsabilités administratives et politiques.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous parlons d'entreprendre en Afrique. Nous en parlons à l'occasion d'un événement qui aura lieu normalement à Paris ce jeudi 12 mars. Un événement organisé entre autres par le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, la plateforme Adife et Aperaf. Et pour en parler, nous recevons Landry Djimpé. Landry Djimpé, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour d'être avec nous. Vous êtes PDG du cabinet Innogence et président justement du réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Blériot Chico. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Blériot. Vous êtes, j'ai oublié de marquer votre présentation, vous êtes de deux têtes, PDG d'Aperaf, entre autres, notamment. C'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Bon, bienvenue. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je commence avec vous, Blériot. Bon, tout d'abord, comme Aperaf est l'un des organisateurs de cette conférence qui a lieu normalement le 12 mars, elle a bien lieu, vous confirmez?
Oui, elle a bien lieu.
Il n'y a pas d'annulation. Donc le 12 mars à Paris, ce sera rue du Scribe, mais il y a toutes nos informations sur notre page Facebook. Qu'est-ce qu'Aperaf en deux, trois mots, et puis pourquoi avoir organisé cette conférence, Blériot?
Bonjour à tous, merci à Stéphanie et à Africa Radio de nous avoir invités. Aperaf, en gros, c'est trois choses, c'est l'entrepreneuriat, c'est la cuisine africaine, et ce sont les événements.
J'entendais apéraf, j'entendais un peu apéro, quoi.
Oui, c'est ça, apéro africain, effectivement. Mmh. Et du coup, apéraf a été lancé en 2018 dans l'idée de mettre en avant cette cuisine africaine-là. Et vous savez, pour manger, on a l'habitude de manger, boire, mais on a l'habitude aussi de discuter. Donc apéraf s'est lancé et a lancé un événement qui s'appelle apéraf, l'apéro africain, pour pouvoir discuter d'entrepreneuriat et encourager, inspirer la diaspora à entreprendre. Donc depuis fin 2018, nous organisons des événements, un à deux par mois, pour des after-work ou des conférences dans lesquelles on met en avant des entrepreneurs de la diaspora. Mmh.
C'est ce qu'on appelle aussi un peu du networking, non ? Du réseautage, ça permet de se mettre en réseau, en tout cas de rencontrer des gens et de développer son business, j'imagine.
Effectivement, mmh. ça se déroule souvent les jeudis à la Villa Massaï, du coup toujours pour mettre en avant cette cuisine africaine-là. Et ça permet en fait de discuter d'un thème qu'on a choisi pour le mois et finalement permettre à la diaspora aussi de se réunir parce que c'est ensemble qu'on pourra réaliser de belles choses.
Alors le 12 mars prochain, donc vous êtes associé hein, avec Loreda et Adife à cette conférence hein, qui s'intitule « Lancer son business en Afrique ». Peut-être Landry, pourquoi avoir proposé cette conférence ?
Pourquoi avoir proposé cette conférence ? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les échanges qu'on peut avoir avec la diaspora, que ce soit au travers des événements d'Apéraf ou alors aux événements qu'organise Adife, parce que peut-être pour resituer un peu, Adife est une association pan-européenne qui fédère un peu la diaspora sur des sujets d'engagement civique, d'entrepreneuriat et d'employabilité. Et donc du coup, en échangeant avec les différentes associations, on s'est rendu compte qu'il y avait un désir au sein de la diaspora d'entreprendre vers le continent, de dire comment est-ce qu'on peut contribuer au développement du continent par le biais de l'entrepreneuriat. Et donc nous, étant une association d'entrepreneurs, pour le coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut porter cette voix-là, on peut partager notre expérience en tout cas, auprès de la diaspora qui souhaitera entreprendre et qui aimerait avoir, on va dire, des retours d'expérience et quelques clés pour savoir comment aborder le continent. Et on s'est dit, comme le disait Blériot, on ne peut pas le faire seul. Blériot avait le même constat, du moins Apéraf avait le même constat, Adife avait le même constat, nous Reda on avait le constat aussi, et on s'est dit pourquoi est-ce que chacun irait tout seul dans son coin pour porter le projet, mais il est temps peut-être de la diaspora de commencer à parler d'une seule et même voix et pour porter un message fort, et c'est la raison pour laquelle on s'est mis à trois autour de la table, Apéraf, Adife et Reda, pour organiser cet événement là tous les trois et pouvoir apporter du contenu de qualité pour les participants.
Alors, je redonne le numéro hein, pour les auditeurs s'ils veulent vous poser des questions. Hein, j'imagine les auditeurs, s'ils ont des projets d'entreprise, hein, le numéro c'est 33 1 55 07 58 00. On va écouter hein, dans un instant l'auditeur Diomo hein, qui nous parlera de la question des crédits. J'imagine que c'est un problème qui revient souvent. Mais justement, la question que j'allais vous poser, c'est celle-ci. Quand on parle d'entreprendre en Afrique, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on évoque l'entrepreneuriat sur le continent ? D'instinct, comme ça ?
D'instinct comme ça, ça va être.
Qu'est-ce qu'il y a les peurs, on va dire peut-être les peurs qui reviennent le plus souvent. Il y a des gens, il y a des freins.
C'est plusieurs questions. Vous avez énoncé un, c'est la question du financement. C'est la question de l'environnement des affaires. C'est la question de l'accès au marché. C'est la question de la distribution. C'est la question de l'accès au talent, des ressources humaines. Donc il y a plusieurs questions. Et l'idée d'ailleurs de la conférence, c'est de pouvoir donner quelques éléments de réponse aux participants, très clairement, sur la base de retour d'expérience. On va peut-être aborder vraiment le déroulé de la conférence plus tard, mais sur la base du retour d'expérience des entrepreneurs, mais aussi des dispositifs que peuvent mettre à disposition des institutionnels qui sont invités à échanger avec les participants.
Effectivement, la conférence hein, se déroule sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui les TEDx. Finalement, ce seront des témoignages d'entrepreneurs, si j'ai bien compris. Il y aura des échanges aussi avec la salle. On va prendre tout de suite un premier auditeur, Diomo de Beng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. J'avais même plus posé la question parce que vous êtes rentré dans le vif de ma question. Mais bon, si vous me permettez, je vais la reposer, mais sous une autre forme en fait.
Allez-y.
Moi, voilà. Je remercie d'ailleurs les jeunes frères. De la diaspora, des pays africains ici, nous sommes tous de la diaspora. Je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi aujourd'hui, je veux bien participer à cette conférence-là pour vous poser des questions très visuellement. Aujourd'hui, dans nos pays, à quoi on se confronte en fait ? On se confronte à un problème de financement, c'est-à-dire que l'accès au crédit n'est pas aussi pareil comme dans tous les pays. Je vous donne juste un exemple. En Côte d'Ivoire, le pays que je prétends connaître un peu bien, il y a des moyens d'accessibilité au crédit un peu plus facilement. La preuve, il y a beaucoup d'entreprises qui fleurissent. Mais le seul problème qu'il y a, c'est la connaissance du terrain. Parce que c'est vrai qu'on dit que nous devenons tous des pays émergents en 2020, mais il y a aujourd'hui ce contact de tu connais qui. Je sais pas, je dis ça en ivoirien, hein. Tu connais qui? Tu connais qui, ça veut dire quoi? Tu as quelle relation? Mmh. Et quel garant vous pouvez donner à ces personnes-là pour les convaincre de ne pas pouvoir compter toujours ou se braquer sur ce fait de tu connais qui? Parce que ce tu connais qui fait que les gens ne vont pas investir. Parce que tu iras avec des millions, quand tu arrives que tu ne connais personne, ton argent va finir et tu viendras ici pleurer avec la banque. Alors que la banque, en ce moment-là, ne te laisse pas en train de dire « oui, c'est pas moi, ceci, cela ». La banque ne te fera pas de faveur dans ça. Vous, en tant qu'entrepreneur, quel est votre conseil dans ce sens?
Quel est peut-être finalement un retour d'expérience? Effectivement, merci Ardio Baudemeng, restez à l'écoute. On va peut-être écouter, je vais reformuler votre question. C'est vrai qu'il y a beaucoup, dans beaucoup de pays africains, il y a un faible taux de bancarisation. Est-ce que c'est un frein sérieux à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des banques finalement sur place, on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, pour financer les PME, à quelle hauteur? Et après, il y a la question aussi peut-être de l'entre-gens. Est-ce qu'il faut avoir des relations pour pouvoir bien entreprendre dans certains pays africains? Lequel veut se lancer sur la bancarisation? Landry?
Landry Djimpé? Oui, le sujet de la bancarisation est un sujet assez intéressant parce que pour ma pratique personnelle et Innogence Consulting, on travaille beaucoup dessus, sur les questions de bancarisation, autant avec les banques que des assureurs, que des fonds d'investissement d'ailleurs, qui veulent adresser ces problématiques-là. Après, pour la question de l'accès au financement, c'est vrai que c'est un vrai souci, c'est un vrai problème en Afrique d'avoir accès à un financement pour grandir et développer son activité. Néanmoins, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est un intérêt particulier pour les marchés africains de la part des fonds d'investissement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds qui se créent vers le continent. Je donne quelques exemples pour ne pas les citer. On a un très grand fonds français, IEP.
IEP, oui, qui... bien sûr, qui est d'ailleurs actionnaire d'Africa Media en Côte d'Ivoire. Voilà, j'attendais que vous le citiez.
Voilà, qui ont lancé un nombre de fonds locaux dans 5 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, mais on peut citer aussi le Niger, le Burkina, le Sénégal, Madagascar, et qui est en train de lancer un fonds au Mali, d'ailleurs. Et donc, ça montre en tout cas qu'il y a cette volonté-là. On voit aujourd'hui des institutions comme l'AFD même qui commencent à mettre des tickets, de l'argent à disposition de structures pour accompagner les entrepreneurs au niveau sur les questions de financement. Et même, pour vous dire, le REDA, on a, parce que c'est une problématique aussi qui était rencontrée par nos membres. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'à notre petite échelle, on peut aider à résoudre cela. Donc, au sein du REDA, on a lancé un véhicule d'investissement. Qui est porté par les membres, au fait, et qui met à disposition des entrepreneurs des tickets entre 5 à 15 000 euros. Donc, on va dire entre 3 et 10 millions de francs CFA pour accompagner les entreprises en développement. C'est notre contribution et notre part de réponse, en tout cas, à ce problème de manque de financement-là. Mais ce que j'aimerais aussi dire aux entrepreneurs, c'est personne n'investira dans votre entreprise quand vous-même vous n'avez pas déjà mis quelque chose sur la table. Donc, c'est bien d'avoir un projet. Mais il faut que quand on va rencontrer quelqu'un qui a potentiellement de l'argent, investisseur, fonds d'investissement, banque, microfinance, les amis, la famille, il faut déjà qu'on puisse montrer aux personnes en face de nous que nous-mêmes déjà on a fait la démarche de mettre nos propres sous dedans, qu'on y croit, donc on a mis de l'argent dedans. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra convaincre en tout cas les personnes qui pourraient investir.
J'ai une petite question pratique, et Blériot pourrait peut-être ajouter quelque chose, et je vais peut-être à vous, je vais poser la question. Est-ce qu'on peut imaginer que des banques ici en France viennent... sponsoriser, comment dire ça, soutenir des PME en Afrique, même si je suis quelqu'un, on l'a dit, ça s'adresse plus ou moins aux afro-descendants et aux membres de la diaspora, j'ai un compte ici en banque, un compte professionnel en tout cas, est-ce que je pourrais m'appuyer sur une banque française pour développer, pour soutenir ma PME sur le continent, ou
c'est vrai que c'est pas facile en fait pour les banques, parce qu'ils ont besoin en fait de ce qu'on appelle les collatéraux.
Elles sont frileuses un peu.
Elles se demandent si le projet est durable, quel est l'environnement sur le pays. Et en fait, finalement, je pense que la diaspora a quand même cet avantage d'avoir des actifs, que ce soit immobilier, soit un travail ici en France. Et à partir de là, ça peut encourager aussi les banques parce qu'ils savent qu'il y a un cash flow qui arrive, ils savent qu'ils ont un actif qu'ils peuvent hypothéquer. Donc la diaspora, je pense, peut aussi s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir demander des crédits. Après, moi, j'avais quelque chose à rajouter sur ce que Landry a dit. C'est, on a l'habitude, en fait, au sein de la diaspora ou même au sein des afro-descendants, de se plaindre de ces fonds d'investissement ou de ces banques qui ne veulent pas investir sur le continent. Mais nous-mêmes, on a beaucoup de brillantes personnes qui travaillent dans des grandes banques et qui sont capables, en fait, d'être des business angels pour tous ces entreprises qui veulent se lancer sur le continent. Mais eux-mêmes, ils sont frileux. Eux-mêmes, ils sont frileux. Donc, on peut pas dire, on peut pas reprocher aux banques de ne pas avoir confiance si nous-mêmes, on peut pas mettre des petits sur des entreprises qu'on croit importantes pour le continent.
C'est très clair. Il y avait la question aussi, alors c'est du mot de peigne, de l'entregent, du relationnel, et peut-être plus généralement de la corruption. C'est ce qui inquiète aussi, c'est certains quand ils imaginent, en tout cas, c'est l'un des clichés, quand on va entreprendre en Afrique, on a l'impression qu'on va devoir graisser la patte à chaque niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un pays qui est plus safe sur ces questions? Ou est-ce que c'est une question sensible, justement Dario, allez-y.
C'est une question qui revient pas mal et c'est une question qui est assez évidente. Il ne faut pas se voiler la face. Après, je pense qu'il n'y a pas de généralisation à faire. Chaque pays d'Afrique est quand même assez particulier. Et on a par exemple l'exemple du Rwanda. Je pense qu'au Rwanda, il n'y a pas de corruption. En tout cas, ils font tout pour l'empêcher. J'étais à une conférence la semaine dernière, justement, où on parlait de ces questions-là. Et il y avait des entrepreneurs de Côte d'Ivoire qui disaient que ils ont réussi en fait à s'en sortir sans mettre des sous sur la table. Donc je pense que c'est quand même une question à adresser en fonction du pays et en fonction aussi je pense de l'activité qu'on veut avoir. Donc je pense qu'il y a pas de réponse forcément à avoir d'une manière générale.
Oui, après pour rajouter juste il y a un terme qui a été évoqué hors radio tout à l'heure, c'est la question du réseau. Je pense que la réussite entrepreneuriale tient plus de l'ordre du réseau que de la corruption. On ne réussit pas seul. L'idée de self made man, pour moi, je n'y adhère pas énormément. Et pour moi, je dirais plutôt, et c'est un petit conseil que je donnerais à tout entrepreneur, c'est développer le réseau. C'est pas la corruption, mais c'est développer le réseau. Pour ça moi, c'est la réponse.
Multiplie les opportunités, en fait, c'est surtout ça. Et on a plus tendance à faire appel à quelqu'un qu'on connaît qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Effectivement.
On voulait écouter Sanogo, mais Sanogo est en ligne avec notre standardiste, donc on ne va pas pouvoir le prendre. Il y a Kafana qui envoie un message. Alors, c'est toujours la question du financement et je pense qu'il mélange un peu tout, mais vous allez peut-être le lui répondre. Kafana nous dit bonjour. Je pense que cette conférence est à saluer car nous avons besoin vraiment de tous pour le développement de notre cher continent. Mais entreprendre en Afrique n'est pas une chose facile. Il y a d'abord le côté financier, ensuite les personnes mal intentionnées pour mettre des cales dans les roues. Il dit « Moi qui vous parle, je suis membre fondateur d'une ONG appelée « Je suis un SMS » qui signifie « Je suis un citoyen », sauf que moderne, d'un monde sensible, simple membre. Il dit « Je vous parle de nos projets, mais je ne trouve pas de partenaire financier ». Il faut faire la différence aussi, surtout quand on est ressorti de la diaspora, entre des projets un peu de développement, limite humanitaire, hein, parce qu'une ONG, ça reste ça, et l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes.
Bien sûr. Je pense qu'en fonction du type de projet qu'on porte, les routes de financement, du moins les canaux de financement, sont différents. Quand on est une ONG, on va potentiellement s'adresser à des bailleurs internationaux qui ont des enveloppes pour adresser ce genre de besoins. Je pense notamment à tout ce qui peut être potentiellement AFD, tout ce qui peut être Union européenne et autres. Quand on veut adresser un fonds d'investissement ou une banque, c'est des personnes qui sont là pour fructifier l'argent qu'ils ont, parce qu'à la fin de la journée, c'est des personnes à qui on a confié de l'argent pour gérer. À titre personnel, quand je donne mon argent à la banque, j'aimerais recevoir avec un petit plus. Donc, c'est un peu la logique qu'on devrait avoir quand on porte ce type de projet. C'est quand on va voir un banquier ou quand on va voir un fonds d'investissement, il faut qu'on leur propose un projet où il y a une certaine rentabilité adossée au projet. Mais quand on est sur des sujets de développement ONG, il y a des financeurs qui sont spécialisés sur ces types d'activité là.
Alors justement, effectivement, Blair, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais rajouter. Bon, je sais pas si le monsieur a essayé le canal, le crowdfunding. C'est aussi quelque chose qui peut être adressé.
Les cagnottes sur le site internet, on récolte de l'argent.
Du financement participatif. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent mettre des petits tickets pour permettre à cette ONG-là finalement d'avoir l'argent nécessaire pour réaliser son projet.
J'allais vous évoquer, puisque effectivement, vous disiez beaucoup de gens veulent rentrer, entreprendre sur le continent africain pour aussi aider au développement du pays. Le paradoxe, c'est quand vous entreprenez, il faut que ce soit effectivement rentable et que ça rapporte de l'argent. Est-ce que les deux sont conciliables? Est-ce qu'on peut entreprendre tout en étant utile et social? Est-ce qu'on peut être des entrepreneurs sociaux?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que... Parce que en fait, il y a une logique. L'entreprise doit quand même pouvoir vivre d'elle-même. Et du coup, pour qu'elle puisse vivre d'elle-même, il faut quand même qu'elle génère de l'argent. Après, on peut avoir une logique très capitaliste ou très gain. Et là, auquel cas, ça peut être à l'encontre finalement du développement. Donc, mais je pense que les deux sont tout à fait conciliables. Et il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs, que ce soit en France, avec tout ce qui est économie solidaire, qui se développe et qui arrive d'être sans financement extérieur à se soutenir. De toute façon, le principe même d'une association, c'est un peu ça en fait, c'est de pouvoir réussir à marcher sans forcément dégager du bénéfice, mais ça reste important pour la société.
Si je pourrais juste rajouter, je pense que c'est intéressant quand on parle d'Afrique parce que la réalité sur le continent, c'est que sur plusieurs problématiques, on est encore sur des questions d'accès et de construction d'infrastructures. Là où en Europe, par exemple, ou dans le monde occidental, on va dire, on est sur des questions d'efficience dans la distribution des produits et services, en Afrique, on est encore sur la question d'accès. Ce qui veut dire toutes les aventures entrepreneuriales qu'on peut avoir sur le continent vont forcément avoir de l'impact. Du coup, je comprends pas toujours la notion de business social sur le continent, dans la mesure où quasiment tout ce qu'on fait, c'est aujourd'hui de construire l'infrastructure. Tous les projets entrepreneuriaux sur le continent, même dans les services, servent et contribuent à construire l'infrastructure qui est très souvent manquante.
Même souvent dans des secteurs de base, comme la santé, l'éducation, secteurs qui sont normalement dévolus à l'État.
Totalement. Mais quand on parle même sur des questions de bancarisation dont on parlait en tout début d'émission, les boîtes qu'on va voir se lancer dessus, comme les fintechs, ne viennent aujourd'hui que remplacer, du moins pallier au manque d'accès aux services financiers pour des populations qui n'avaient pas souvent accès à la banque. Et finalement, les services qu'elles vont proposer vont servir d'infrastructure pour des services financiers plus développés à plus forte valeur ajoutée. Donc je pense que c'est plutôt par ce prisme-là qu'on devrait regarder l'entrepreneuriat sur le continent aujourd'hui.
Merci pour votre réponse, messieurs. On va écouter Georges. Georges, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour, Georges. Allez-y.
Oui, bonjour, bonjour. Je merci de me prendre à l'antenne. Je suis sur votre émission, mais c'est la première fois que je participe parce que le sujet est assez intéressant pour moi. Vous discutez beaucoup de financement, mais ce que je disais à l'antenne tout à l'heure, c'est que pour moi, le vrai challenge, c'est le côté opérationnel. Comment quelqu'un de la diaspora qui vit en France, qui vit en Allemagne, veut investir en Afrique, comment il s'y prend pour y être? Parce que le vrai challenge pour moi, c'est pas d'abord financier, c'est d'abord opérationnel, d'être sur le terrain, d'avoir une équipe, de gérer l'équipe, de gérer le business sur le terrain, avant de parler de financement, parce que dans tous les cas, à mon avis, il y a toujours des financements si le business est sustainable. Donc, comment est-ce que nos panélistes, nos invités...
C'est bon, c'est joli, je prends, ça fait une mission haut de gamme. Excellente question, Georges, je pense que je l'avais même noté chez moi dans mon conducteur. C'est vrai que beaucoup se plaignent, justement, ah oui, j'ai voulu entreprendre, ça n'a pas marché, je me suis fait avoir, ceci... Mais souvent, ce sont des gens qui entreprennent et tout en restant ici, en tout cas, est-ce que, selon vous, il faut être forcément sur place pour réussir son entreprise ? Ou pas du tout, d'ailleurs, je ne sais pas.
C'est marrant parce que c'était... en fait, pour vous raconter l'histoire, on a fait un Apéraf Networking sur le sujet « Lancer son business en Afrique ». C'était en novembre dernier et qui a été rempli assez vite. Et d'autres personnes, justement, nous ont dit « On n'a pas pu assister à cet Apéraf Networking-là qui est un after work. On veut que le sujet soit remis sur la table. » Et lors de cet after work-là, la question est pas mal revenue. Et il y avait deux intervenants qui n'étaient pas du tout d'accord sur ce sujet. L'un disait que c'était impossible d'investir en étant en France, et l'autre disait que il fallait en fait mettre en place des procédures, il fallait en fait choisir c'est le sujet, qu'il y avait pas mal de choses à faire, à mettre en place, parce que c'est pas évident. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que se lancer sur le continent en étant loin, c'est quelque chose qui est pas évident, c'est quelque chose qui va être très difficile, c'est quelque chose que les gens négligent, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui réussissent pas. Une fois qu'on a dit ça, finalement, moi, je vais aussi m'appuyer sur ce que certaines personnes avaient ressorti, notamment le fait de bien choisir son business, de bien choisir les personnes, de payer, parce qu'on a l'habitude aussi d'embaucher en Afrique, mais on ne veut pas les payer, en fait. Ou on veut prendre quelqu'un de sa famille qui n'est pas forcément compétente, et après, on généralise. Donc, il y a pas mal de choses, finalement, à regarder pour pouvoir réussir à lancer son business depuis l'étranger. Et aussi, l'un des buts de la conférence, c'est qu'on va vous mettre en sur scène des entrepreneurs qui ont soit investi en étant rentrés pour pouvoir le faire parce que c'était pas évident, et d'autres entrepreneurs qui ont réussi à se lancer en étant
de loin.
En étant de loin, oui.
C'est intéressant, finalement, oui, j'avais des préconçus. Landry, votre avis sur la question ?
Oui, je crois que pour prolonger le propos de Blériot, je crois que c'est vraiment du cas par cas, on peut pas généraliser. Je crois que l'une des choses à faire en amont, c'est vraiment de faire un audit, entre guillemets, de nos assets, de ce qu'on a, de nos ressources, effectivement. Oui. Désolé. De nos ressources, en termes de ressources humaines, financières et autres. Et de savoir réellement, et d'être vraiment honnête envers soi-même. Est-ce que les ressources que j'ai sur place peuvent tenir le projet sans moi? Moi, je discutais encore vendredi avec un très bon ami à moi qui s'est lancé dans l'élevage au Cameroun, qui a déjà mis 200 000 euros sur la table et en 2-3 ans, et qui est contrôleur de gestion à Paris, très clairement. Mais par contre, il va au Cameroun tous les 3 mois pour 7 à 10 jours. Mais néanmoins, il a sur place un frère qui est vraiment rigoureux et qui est très intègre. Il sait qu'il peut compter sur la personne. Mais dans l'autre cas aussi, j'ai des personnes qui ont dû tout quitter pour aller s'installer en Afrique parce qu'elles n'avaient pas ces ressources-là. Donc, on ne peut pas réellement généraliser. Je crois, comme disait Blériot, c'est vraiment de voir, OK, en fonction du business, en fonction des ressources qu'on a localement, qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Est-ce que ça vaut le coup de rester à Paris ou alors il faut juste tout plaquer et aller sur le continent?
Dans tous les cas, hein, j'imagine que c'est la rigueur aussi, hein, l'élément essentiel, hein, pour que son business réussisse. Il reste 40 secondes, une réponse vite fait sur les secteurs clés, porteurs. S'il faut entreprendre aujourd'hui, c'est n'importe quel secteur, on parle beaucoup des nouvelles technologies.
Nouvelles technologies, oui, mais comme dirait quelqu'un, on ne mange pas des 1 et des 0. Donc à un moment donné, il faut quand même un peu de concret. Je pense que les grosses valeurs ajoutées à créer sur le continent aujourd'hui sont potentiellement dans l'industrie première et secondaire.
Transformatrice, quoi.
Transformatrice, effectivement.
Très beaucoup d'emplois.
Et donc pour moi, j'ai envie de dire finalement, tous les secteurs sont ouverts sur le continent. Mais le plus important, je pense, c'est de demander aux gens de venir jeudi, parce qu'il y aura des institutionnels qui vont présenter les dispositifs qu'ils mettent en place pour accompagner ces entrepreneurs-là à rentrer. On parle notamment de personnes comme Stéphanie Rivoal, qui est l'ambassadrice du Sommet Afrique 2020. Où il y aura un gros dispositif pour accompagner les entrepreneurs de la diaspora sur les problématiques d'entrepreneuriat vers le continent. On aura des plateformes comme Digital Africa, portées par l'AFD et présidées par Karim Si, qui vont présenter en tout cas leurs dispositifs, mais aussi Adifé qui sera là pour présenter leurs différents dispositifs, Apera, Vreda, pour vraiment proposer aux gens et aux participants des clés pratique pour retourner sur le continent.
C'est très clair, merci beaucoup Landry Djimpé. Hein. C'est donc le 12 mars, jeudi, à partir de 19h30, heure de Paris, c'est rue du Scrim, mais les auditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur vos différents sites, j'imagine, et sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Il me reste 20 secondes pour dire au revoir messieurs, merci d'être venus Landry Djimpé, PDG d'Innogence, et Dario Chico, PDG d'Apera, entre autres. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci à nos auditeurs.
À jeudi.
À jeudi, j'espère. Oui, comptez sur moi. Merci à nos auditeurs. On se retrouve demain. On parlera demain du MeToo à l'Ivoirienne. À demain.